retour sur notre page YouTube.
Je veux juste te dire que c'est pas parce que t'as coupé la conversation avec un extrait sonore en onde que je maintiendrai pas mon point sur ça.
Ben c'est correct, je vais maintenir le mien aussi.
L'open mic commence. On fait ça un peu spécial aujourd'hui, on fait ça différent. C'est-à-dire que il y a une semaine, on a reçu un courriel d'une maman qui décriait le fait que c'était difficile d'avoir des services pour les jeunes qui sont sur le spectre de l'autisme au Québec. Elle nous racontait son histoire, puis elle est passée dans On en jase avec Jeff le midi. Puis Mathias Turcotte, qui est notre journaliste a décidé de pousser le dossier un peu plus loin, d'aller essayer de comprendre pourquoi c'était peut-être justement un peu difficile l'accompagnement des jeunes avec un TSA au Québec. Mathias, bon matin.
Bon matin.
Moi, tu viens quand tu veux. Hein. Ce qui est le fun, c'est que c'est toi qui dirige la conversation. Fait que ça me donne quasiment un break. Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est, plus sérieusement, on a discuté de ça ensemble hors des ondes. Puis c'était une chose de recevoir la maman qui venait d'écrire sa situation qui probablement a résonné auprès de beaucoup de gens. Là. Mais c'est une autre chose d'essayer de comprendre, par exemple, comment ça se passe chez nous puis comment peut-être on peut faire mieux.
Puis il faut dire, au cours des derniers mois, des dernières semaines, c'est pas la seule histoire qu'on a entendue dans les médias par rapport à une mère, un père qui a des enfants ou un enfant atteint d'un trouble du spectre de l'autisme puis qui a de la difficulté à recevoir les services dont ils ont besoin, là, dont ces jeunes-là ont besoin. Puis justement, la semaine dernière, je vais vous faire entendre la mère qui a raconté son histoire par rapport à ça, puis par la suite, on pourra développer à partir de ça. Elle racontait justement que son jeune a dû être retiré des services de garde de l'école. Je vous laisse l'écouter.
Le vendredi 30 janvier à 18h55, on m'a envoyé un courriel d'arrêt de service définitif pour mon fils, sans préavis, sans plan de transition. J'ai eu aucune rencontre, j'ai eu aucun plan d'intervention, j'ai pas eu d'analyse spécifique non plus, j'ai pas eu de mise en place d'accommodement pour mon fils. Il y a pas eu d'évaluation, de réajustement, et il y a pas eu de rencontre formelle avant de prendre une décision. Moi, on m'a juste mis devant le fait accompli, comme c'est trop difficile avec ton enfant, fait que, tu sais, arrange-toi. C'est comme ça que je l'ai vu, en fait, là.
C'est un peu ça aussi, là. C'est pas juste comme ça qu'elle l'a vu, c'est définitivement ça. Ce que je trouve plate, c'est que, tu sais, un parent qui a un enfant qui est sur le spectre de l'autisme, il apprend tous les jours, lui aussi, là. Et il n'y a pas une formation spéciale là, pour savoir comment gérer les crises ou comment gérer les comportements qui sont parfois différents, comment gérer le niveau d'apprentissage qui se fait différemment aussi. Puis j'ai l'impression qu'il y a énormément de parents qui se sentent dépourvus rapidement puis abandonnés parce que, je veux dire, c'est, dans le système public, tu es censé avoir une aide là, par rapport à ça. Quand ton jeune a peut-être certains troubles ou apprend pas à la même vitesse que les autres, il est censé avoir des ressources dans les écoles.
Puis on parle de services qui sont normalement offerts aux parents puis que certains parents ont besoin absolument, comme dans ce cas-ci, services de garde, mais on a vu plein d'autres situations. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous décortiquer tout. On va apprendre un peu plus comment accompagner ces jeunes-là. Est-ce que le gouvernement et les écoles le font bien actuellement? Comment qu'ils pourraient mieux le faire? Mm-hmm. Ça va ressembler à ça aujourd'hui.
Allons-y.
Puis, tout d'abord, je me suis entretenu avec Lily Plourde, qui est la directrice générale de la Fédération québécoise pour l'autisme. Une belle discussion intéressante avec Mme Plourde. Puis elle commence par un aspect très intéressant, parce qu'on vit dans des écoles uniformisées. La façon d'apprendre aux jeunes est pas mal pareille partout. On s'assoit dans la classe, on écoute, on apprend et on fait l'évaluation. Elle, ce qu'elle nous dit, c'est que pour une personne, un jeune avec un TSA, justement, il a besoin d'un plan d'intervention spécifique à lui.
Ce qu'il faut, c'est vraiment prendre en considération les besoins de l'enfant et faire un plan d'intervention qui répond avec des objectifs clairs, qui répondent à ses besoins à lui. Donc, une fois que le plan d'intervention individualisé est fait, on met sur pied l'accompagnement qui va répondre aux besoins de cet enfant-là. Parce que l'autisme, c'est un spectre, hein, on le dit. Il y a des enfants qui ont des très grands besoins. Il y a aussi des enfants qui vont être considérés comme de niveau 1, mais qui peuvent avoir des besoins très importants au niveau de la communication. Mmh. Fait que c'est pas parce qu'un enfant a un diagnostic de besoins plus léger que son collègue de classe que ses besoins vont être moindres.
Puis là, on parle juste du trouble du spectre de l'autisme, mais c'est ça pour n'importe qui, même quelqu'un qui n'a pas aucun trouble. Je veux dire, dans les écoles, c'est vrai que c'est très, très, très uniformisé, puis tout le monde, c'est le parcours, puis t'as la classe. Puis
c'est pas adapté aux forces de chacun nécessairement.
T'as le prof qui est surchargé, puis là, tu manques de staff de soutien. Puis... Fait que oui, tout le monde est affecté par ça, mais imagine, c'est ça, ceux qui ont des troubles encore plus particuliers.
Puis, je peux pas, le pire, c'est que j'arrive pas à blâmer le personnel des écoles. Tu sais, moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui enseigne aux primaires. Elle est sur la Côte-Nord, puis... dans sa classe, sur 12 élèves, il y en a 9 de problématiques. Puis quand on dit problématique, là, c'est à connotation très négative, dit comme ça, mais ce sont juste simplement des jeunes qui auraient besoin d'un soutien et d'un accompagnement externe. Mais là, elle est seule dans sa classe avec ses 12 élèves. Il faut qu'elle enseigne son contenu. Puis justement, tu le dis, Matt, c'est très, très uniformisé, ce qui fait en sorte que l'examen est telle date. Faut que ça rentre là-dedans. Là. On n'adapte pas. Là. Puis en plus de ça, il faut qu'elle soit capable de développer des skills de travailleuse sociale. Il faut qu'elle soit capable de, c'est ça, de s'adapter pour pas que ces jeunes-là soient, par exemple, trop turbulents pour le reste de la classe.
C'est difficile pour les enseignants parce que on le voit. En plus, il y a des classes de plus en plus nombreuses. On voit des classes, même au primaire, de 30, 32 parfois. Au secondaire, je m'en souviens des. Les classes étaient tellement grandes qu'il fallait parfois rajouter un bureau dans le coin qui n'était pas là initialement, là, parce que la classe était pleine. Mais au lieu d'avoir 32 enfants, on était rendu à 34 dans une classe. Si tu es un enseignant, puis en plus de ça, tu as 10, 12 enfants qui ont des besoins particuliers, qui ont un plan d'accompagnement, on peut pas remettre ça tout
c'est
entre... Ben non, c'est ça, c'est sûr que c'est le désordre. Puis quand elle parlait de mettre des plans d'intervention ciblés, parce qu'elle, c'est ça qu'elle m'expliquait. Puis c'est pas nécessairement de la faute des enseignants, encore une fois, mais il manque de compréhension du sujet chez des écoles en général. On peut parler de direction, on peut parler en général. On comprend pas bien la réalité de ces jeunes-là, puis même parfois des plans d'intervention sont mal réalisés. Par exemple, un plan d'intervention avec des objectifs clairs, c'est quoi? S'il est écrit dans le plan d'intervention, elle doit se faire des amis. Ça, c'est pas clair. C'est elle doit parler 5 minutes avec son ami. Parce que eux, c'est important que ce soit stable, c'est important que ce soit précis. Puis,
ils ont
comme
besoin
ça,
d'une routine.
Ils ont besoin d'une routine, puis l'intervenant aussi qui a à intervenir auprès de cet enfant-là, si c'est clair, il sait exactement ce qu'il doit faire pour que cet enfant-là puisse s'épanouir dans son encadrement. Puis, on l'a dit, là, il manque de ressources, il manque de financement du côté du gouvernement, surtout en ressources spécialisées. Mais je l'ai dit, il y a un manque de compréhension de ce qu'est l'autisme dans les écoles en général, de ce que nous dit Lily Pilote.
De un, il y a le manque de formation et de compréhension de l'autisme de la part du personnel scolaire. Ça, c'est un problème de base. C'est, mettons, si par exemple, dans le plan d'intervention, on dit que l'enfant a besoin d'un accompagnateur 2 heures par jour, puis qu'après 4 mois, ça se passe super bien dans la classe. Il va numéro 1, il n'y a pas de problème, il suit bien, il y a une bonne moyenne générale. Ah, ben ça va bien, on va t'enlever tes heures d'éducateur.
Ben là.
Mais c'est pas ça. Ce qui fait qu'il va bien, c'est qu'il a un éducateur avec lui. Est-ce qu'on enlève un fauteuil roulant d'un enfant qui est paraplégique?
Évidemment, non.
Alors, pourquoi est-ce qu'on enlève les heures d'un éducateur alors que c'est ça qui va assurer le succès scolaire de cet enfant-là? Et ça, c'est des très mauvaises habitudes qu'on a d'enlever le soutien quand ça va bien. Après ça, ça commence à aller mal. Après ça, on blâme l'enfant. Puis c'est l'enfant qui va vivre les conséquences de la mauvaise direction que tu as prise.
Audrey, t'as eu un grave accident puis t'as perdu une jambe, fait qu'on t'a le remplacé par une jambe de bois. Mm-hmm. Puis là, ça va bien que ta jambe de bois,
t'es capable de marcher.
Ben là, t'es capable de marcher, on va t'enlever ta jambe de bois.
Non, mais honnêtement, son parallèle avec le fait d'avoir un handicap physique, je le trouve excellent. Puis elle a raison sur un point, c'est vrai qu'on a de la difficulté à comprendre ce qu'on voit pas. C'est vraiment ça. Je le compare à ça. Puis, tu sais, avec des discussions, justement, avec des gens autour de moi que j'ai eu qui travaillent dans le milieu scolaire, souvent, c'était on s'en veut, même nous, comme enseignants, parce que quand il y a des grosses crises, on a de la misère à réaliser que c'est réalisé, par exemple, à un trouble sur le spectre de l'autisme. Des fois, on va juste se dire, voyons, réorganise-toi, gère-toi, Cibolle, t'es en train de déranger la classe au complet. Mais c'est parce que ces jeunes-là, dans leur tête, leur réalité, c'est pas la même. Ils ont besoin vraiment de se calmer. Ils ont besoin d'un suivi. Puis, malheureusement, ben, ce staff-là, on ne l'a pas dans les écoles.
Non, c'est ça. Puis c'est justement ça qu'elle m'expliquait aussi. Parfois, même des enfants qui vont souffrir de ce trouble-là vont être désorganisés. C'est comme ça qu'on qu'on qualifie ça, c'est quand ils sont en crise, quand il y a une situation qui ne va pas bien, ben c'est qu'ils sont désorganisés. Puis parfois, ils vont avoir des actes de violence. Puis la réaction de l'école, souvent, face à ça, vont dire « ce jeune-là est violent ».
On le suspend, exact. On renvoie.
Mais c'est ça qu'elle a expliqué, c'est pas que le jeune est violent, c'est pas que c'est un mauvais jeune. Ce jeune-là a juste des besoins particuliers, puis dans certaines situations, il vire désorganisé, puis ça peut se manifester par de la violence.
Puis ce que je trouve triste, c'est que quand les jeunes, souvent, sont diagnostiqués, bon, tel jeune est sur le spectre de l'autisme, bon, peu importe le niveau, c'est un moment qui est quand même assez important dans un développement, parce que c'est là généralement que si ce jeune-là est bien accompagné, il va développer des outils, il va développer des trucs pour se gérer, s'aider quand justement il manque de repères, quand c'est trop. Je le dis parce qu'on en a déjà parlé en ondes, mais moi, le jeune à Denis Gravel, dans le retour, m'impressionne. Le plus jeune est sur le spectre du trouble de l'autisme, finalement.
Son père aimerait rappeler que lui aussi.
À un moment donné, cet été, j'ai eu la chance de passer une soirée avec lui, en fait, cet automne, en septembre, au Festival Phono. C'est un petit gars qui tripe sa musique. C'est un petit gars qui est passionné de musique. Mais justement, quand il y a trop de monde, quand il est surstimulé, ben il réagit. Mais lui, à force de développer des trucs puis d'être encadré, ben tu vois, à un moment donné, on s'est retrouvés dans le show de Charlotte Cardin, puis là, il y avait trop de monde autour, c'était trop. Ben il était capable de le verbaliser, de me faire des signes, en fait, que j'ai compris parce qu'on s'était parlé préalablement puis on a pu sortir de cette situation-là. Mais je veux dire, si lui n'avait pas ces outils-là ou ne se comprenait pas ou n'avait pas un accompagnement, ça aurait pu dégénérer dans une mesure où peut-être que ça se serait traduit autrement, en crise, je sais pas, moi. Puis en même temps, Denis le dit souvent en onde aussi, il y a la chance que son gars s'exprime beaucoup, ce qui n'est pas le cas de tous les jeunes qui ont un TSA. Mais quand même, tu sais, je trouve que c'est un exemple qui est flagrant sur le fait que, comme n'importe quoi, quand tu développes, tu as une boîte à outils. Si tu l'as pas, cette boîte-là, tu grandis, puis je veux dire, t'es pas mieux. Fait que le fait, moi, qu'on retire ces jeunes-là de leur milieu, qu'on les renvoie ou qu'on les suspende ou qu'on les mette automatiquement dans des classes spécialisées où tout le monde se gère pas, j'ai pas l'impression que ça les aide, là.
Ben, t'en parles justement des classes spécialisées. Puis j'en ai parlé avec Mme Plourde parce que déjà, on a eu quelques reportages au cours des dernières années qui montraient que peut-être les classes spécialisées, c'était pas une ressource si miracle que ça. Puis plus loin que ça, on en parlait, on retire des jeunes des classes qui auraient pu fonctionner s'ils étaient mieux accompagnés. Puis ensuite de ça, ce que Mme Plourde m'expliquait, c'est que ces jeunes-là ne peuvent plus avoir accès à un diplôme.
Un enfant qui est, par exemple, en premier secondaire, un jeune adolescent autiste, qui a réussi à passer à travers son primaire avec une bonne moyenne, il n'est pas en retard, il est rentré au secondaire avec pas en classe spécialisée, en classe régulière. Mais là, au secondaire, c'est beaucoup d'adaptation, c'est beaucoup de nouveautés, c'est moins de soutien, c'est moins d'accompagnement. À 3 heures, à tous les jours, le jeune garçon se désorganise. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est, on va dire qu'il fonctionne pas bien dans une classe régulière, puis on va l'envoyer dans une classe spéciale. Et là, si on l'envoie dans une classe spéciale avec une modification de programme, il n'aura pas de diplôme secondaire valide. Alors qu'on a un petit gars qui fonctionnait bien partout dans toutes ses matières. Mais pas nécessairement les 90 partout, mais il passait dans toutes ses matières, il était bon à l'école. Et il aimait aller à l'école. Mais parce qu'on ne lui donne pas le soutien nécessaire, on va complètement nuire à ses capacités d'études postsecondaires et il n'aura pas son diplôme de secondaire 3, de secondaire 5.
T'sais, c'est triste, là. Puis un texto qui vient d'entrer. Les classes spécialisées, mettons que tu te rends là. Les classes spécialisées arrêtent en secondaire 3. Après ça, ça s'appelle « Arrangez-vous avec ». Fait que, tu sais, c'est bien sûr que le 4-5 est difficile.
On revient un peu avec le même exemple que tantôt. Ouais, que, t'as des lunettes, tu vois bien que tes lunettes. Hein, on va t'enlever tes lunettes rendues en secondaire 3.
Puis j'en parlais avec Mme Plourde, justement, ces classes spécialisées, ça, parce que moi, je trouvais ça ahurissant. On dit aux jeunes, on va t'accompagner, sauf qu'on va te mettre dans des classes qui ne te donnent pas accès au diplôme. Puis en gros, c'est parce qu'il y a une modification dans la manière de donner des cours. On fait pas nécessairement les examens du ministère non plus. Mais c'est presque dire, on n'a pas le choix de vous garder à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans, fait qu'on va le faire, mais vous n'allez pas pouvoir avoir votre diplôme par la suite. Je trouve ça un peu ridicule.
Ah, mais c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Tu as parlé avec Gabriel Nadeau-Dubois, qui est porte-parole en éducation de Québec solidaire. Comment on a fait pour se rendre là? Y a-t-il des solutions? Moi, c'est surtout cette partie-là qui m'intéresse.
Oui, bien, j'en ai parlé avec Gabriel Nadeau-Dubois, puis lui-même, il a dit que c'est une situation où il y a de plus en plus de plaintes qui se rendent à lui. De son côté, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas nier qu'il y a eu des investissements en éducation au cours des dernières années sous le gouvernement de la CAQ. Par contre, il n'y en a pas nécessairement eu en ressources spécialisées.
Bien sûr, quand les parents ont un peu d'argent, ils peuvent aller au privé, mais ça coûte très cher. Puis la grande majorité des familles n'ont pas ces moyens-là. Donc, les gens soit n'ont pas de service, soit attendent extrêmement longtemps pour avoir des services. Ce qu'on voit de plus en plus souvent aussi, c'est des jeunes qui sont carrément renvoyés à la maison, hein? Des bris de scolarisation parce que les écoles publiques sont pas en mesure de soutenir ces jeunes-là dans leurs différents besoins, dans leurs différents défis. On a, oui, investi en éducation au Québec dans les dernières années, mais on l'a beaucoup fait en infrastructure, on l'a beaucoup fait dans le salaire des profs, puis ce qu'on a négligé, c'est l'embauche de personnel professionnel, de personnel de soutien.
Puis on se voit, là, puis la CAQ dit tout le temps, on a augmenté des investissements en éducation, puis c'est vrai, mais effectivement, puis ça, ouais, c'est dû aux infrastructures qui s'en viennent.
Qui sont désuètes.
Ouais, qui sont désuètes.
Ben, c'est qu'on on répare, on joue au plaster, dans le fond, là, c'est un peu ça. Là. Et ce que je trouve triste, par exemple, c'est que même si tu augmentes le salaire des profs, malheureusement, les profs viennent à bout. Ils viennent à bout parce qu'ils n'ont pas ces ressources-là, fait que tu es dans un méchant cercle vicieux.
Oui, puis justement, tu en as parlé, puis on dit... Là, c'est difficile pour les professeurs présentement, c'est pas facile. Puis on le redit, on met pas de blâme sur les épaules des professeurs, vraiment pas, parce qu'eux se ramassent avec des classes de plus en plus difficiles. Puis justement, Québec solidaire voit, on revient à une certaine problématique que QS critique beaucoup en éducation.
Le système à trois vitesses?
Le système à trois vitesses avec le secteur privé.
Il faut savoir que pour bien comprendre à quel point c'est difficile maintenant dans nos écoles publiques, il faut se rappeler qu'on est dans un Québec où, au niveau secondaire, on retire le système retire les enfants les plus favorisés, les enfants les plus performants, le système les retire pour les envoyer au privé, hein. Et donc, on se retrouve au public, non seulement avec beaucoup plus d'enfants en difficulté, mais avec, dans les classes, moins d'enfants performants, moins d'enfants plus faciles, disons-le comme ça, ce qui pourrait équilibrer un peu le climat dans les classes.
C'est moins vrai, ça, aujourd'hui, ouais. Par exemple. Là. Puis ça, c'est mon deux cents à moi, là. Mais je veux dire, il y a bien des parents qui vont envoyer leurs jeunes. Là, on parle du spectre de l'autisme ce matin, mais je pense qu'un jeune à difficulté, ça peut être un trouble de l'attention, ça peut être mille et une affaires, on s'entend, là. Puis je pense que le privé, en soi, c'est une question de budget. Puis il y a beaucoup de parents qui décident aujourd'hui d'envoyer leurs jeunes au privé parce qu'il y a des ressources. Oui. Fait que je pense pas que c'est vrai que c'est nécessairement les élèves les plus performants qui se ramassent au privé. Puis ça, c'est un avis personnel, là. Je veux dire, j'ai pas toutes les données, les statistiques, mais il y a un documentaire...
C'est peut-être quand c'est de la sélection par note, là. Là, peut-être.
Oui, mais tiens, encore là, je pense que c'est plate ce que je vais dire, mais c'est qu'au privé, s'il y a une chose qui est bien faite, c'est que t'es pas obligé d'avoir une uniformité à travers le Québec. Le privé gère sa façon d'enseigner. On a les mêmes examens au bout du compte, mais ils gèrent leur façon d'enseigner, puis il y a une façon de s'adapter, et il y a des ressources qui fait que ça roule beaucoup mieux. Puis il y a un documentaire, si jamais ça vous intéresse tout ça, là, que moi j'avais trouvé hyper intéressant, qui s'appelle « L'école autrement ». C'est sur Télé-Québec. On parle justement du système à trois vitesses, puis de la réalité terrain du public. Puis on parle du fait que nos ambitions en frais d'éducation sont freiné par la façon dont on fait les choses. Il y a du bon à notre système de l'éducation, il n'y a pas juste du mauvais. Mais quand on parle de jeunes à problème, tu sais, moi, demain matin, si j'ai les sous et que mon jeune a un besoin d'accompagnement, probablement que j'aurais le réflexe, en fait, de l'envoyer au privé, pas au public.
Ben, c'est que les enfants au privé réussissent beaucoup mieux. Puis ça, c'est statistique. Là, mettons que
parce qu'ils ont les ressources.
Mettons que je prends l'épreuve d'écriture de secondaire 5. Là, c'est 85,5% de réussite au privé, 66% de réussite au public. Ça... C'est difficile à analyser comme statistique, soit à cause qu'il y a plus de ressources, soit parce que initialement ces élèves-là étaient meilleurs entre guillemets. Là, il faudrait vraiment puiser dans les statistiques poussées et tout. Mais une chose est sûre, c'est que...
Parce que prends ça à l'envers. Quand t'inscris ton jeune, là, il n'a pas encore commencé, mettons, son primaire, son secondaire, peu importe. Là. Tu ne sais pas à quel point il va être bon à l'école.
Il y a des statistiques aussi sur des jeunes qui évoluent en milieu plus aisé qu'habituellement, que ce soit dans le public ou dans le privé, ont plus de facilité à l'école.
Ben, donc, en fait, moi, je le vois plus du genre, t'es aisé, donc tu peux envoyer ton enfant dans un milieu où il va y avoir plus de ressources, puis t'es sûr qu'il va bien réussir. Fait qu'inévitablement, s'il est soutenu de la bonne façon, qu'il est enseigné de la bonne façon, il va avoir des meilleurs résultats. T'sais, moi, je le vois plus comme ça.
Ben, je pense que c'est un peu des deux, mais une chose est sûre, c'est qu'effectivement, Gabriel Nadeau-Dubois fait un peu un plus un rapidement. Là. Ça, on peut s'entendre. Puis je termine avec ça parce que j'ai parlé avec Marc Charbonneau, qui est directeur général du Collège des Hauts Sommets. C'est une école secondaire qui est justement spécialisée en adaptation aux jeunes aux besoins particuliers. Puis on a discuté de certaines pistes de solutions. La communication avec les parents, c'est très important. Faut avoir une approche individuelle justement pour chaque jeune. Comment eux autres, ils réussissent bien justement, avoir une stabilité. Puis, si on ne réussit pas à bien accompagner les jeunes, ben ça fait en sorte que ça devient difficile pour les jeunes et les parents et l'école.
Il n'y a pas l'encadrement ou la soupape pour essayer d'évacuer puis de vivre des réussites. Comme, moi, comme vous, là, si on est à un endroit où on n'est pas bien puis qu'on est constamment en échec, c'est un malaise qui est constant puis qui devient rapidement là, insupportable. Puis là, ben, eux, des fois, de la manière que ça sort, là, ça peut être de la panique, de la colère, des crises, des désorganisations. Puis, ben, l'enfant n'est pas disponible pour l'apprentissage, ce qui fait que ça amène des frustrations puis des échecs pour tout le monde, que ce soit l'enfant, que ce soit le parent, l'enseignant, l'intervenant, l'école. T'sais, tout le monde est en échec quand on est dans cette roue-là. Puis, si on n'est pas capable de donner un encadrement qui est assez adapté puis prévisible, ben le jeune, il accumule, puis ça arrive qu'il peut exploser à la maison.
Tu sais, il y a un texto qui est entré, salutations à Yann, il dit « Mon fils avait des difficultés au public, j'ai décidé de l'envoyer au privé pour un meilleur accompagnement. Si ça n'avait pas été de ça, il aurait probablement été un décrocheur. Il a eu son diplôme d'études secondaires avec beaucoup d'efforts et il a maintenant 25 ans, il travaille. On n'était pas en toute fortunée, mais on a fait les sacrifices pour lui permettre. » Puis malheureusement, c'est vraiment pas tout le monde qui est capable de se permettre ça. Et moi, je le vois un peu à l'inverse, puis il est là mon problème avec notre système à trois vitesses. C'est que si au privé, on est capable de s'arranger pour donner les bonnes ressources. Clairement, il faut que le gouvernement de Nice puis donne assez de sous pour qu'on soit capable peut-être de mettre les ressources terrain aussi. J'ai une dernière question avant de te laisser aller, oui. Matt. Pourquoi il y a de plus en plus de jeunes à problème? À travers tout ce qu'on a entendu, là, c'est quelque chose qui revient souvent. Ben oui, mais il y a de plus en plus de jeunes dans les classes, il y a de plus en plus de jeunes. Ben, qu'est-ce qui fait qu'il y a de plus en plus de jeunes? Parce qu'on dirait que je comprends pas à quel point on l'échappe comme société si on a tant de difficultés. Là.
Mais c'est beaucoup. Pas qu'il y a plus de jeunes nécessairement, c'est qu'avant, on les détectait pas. C'est plus ça. Je suis allé lire sur le sujet, justement, puis ce qu'on dit, c'est qu'à définition scientifique d'un enfant qui est sur le spectre de l'autisme, de 1, c'est élargi, de 2, on a une meilleure capacité à l'identifier et à les soutenir, puis de 3, il y a plus de sensibilisation qui est faite auprès des parents, fait que t'as plus de parents également qui vont passer des tests pour justement avoir ces diagnostics-là. Mais ça fait pas longtemps qu'on a des accompagnements pour les personnes avec ce trouble de ce genre-là dans nos écoles. Là, je parlais à Lily Pilourde, ça date de 2003. Ça fait seulement 23 ans, c'est quand même récent.
Mathias Turcotte, merci beaucoup pour ce beau dossier. Tu repasses n'importe quand dans l'open mic.
Yes.
Merci Audrey. On t'écoute cet après-midi 14h dans le retour. Dans les prochaines minutes, on fait un petit tour des nouvelles. Entre autres, Mark Carney qui a réagi là, à Donald Trump qui veut nous empêcher de passer sur le pont qu'on a bâti entre Windsor et Détroit. Là, c'est la nouvelle folie du jour. Et on jase aussi de la CSN qui dénonce les coupures de postes au CIUSSS de la capitale nationale. Le point de Max.